Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale revient sur le débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies, ce grand rendez-vous de l'ONU auquel participent chaque année, à la fin du mois de septembre, les dirigeants des 193 États membres de l'organisation. L'occasion de passer en revue les préoccupations du moment, de prendre le pouls de la planète. À partir du 20 septembre et durant 6 jours, les Nations Unies ont donc vibré au rythme du débat annuel de l'Assemblée Générale. Un débat qui, pour cette 71e session, a été lancé par la présentation du 10e et dernier rapport annuel du secrétaire général Ban Ki-moon, Isabelle Dupuis.
Dans son rapport, Ban Ki-moon revient sur 10 années marquées par une série de crises aux répercussions mondiales, allant des crises financières, alimentaires et énergétiques à la vague de troupes qui a affecté le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Il fait le point sur les réformes qu'il a entreprises et revient sur l'adoption l'an dernier des objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Il se félicite de la signature en début d'année de l'accord de Paris sur le climat et indique qu'il quittera ses fonctions soulagé à l'idée que l'on a accordé à temps l'attention que méritait cette question pour pouvoir changer le cours des choses. Parmi ses regrets, Ban Ki-moon pointe du doigt le peu de soutien qu'ont recueilli les nouvelles propositions visant à renforcer les capacités de l'ONU en matière de prévention des conflits. Mais à l'heure où il quitte ses fonctions, Ban Ki-moon se félicite que la question des droits de l'homme est prise en compte dans les objectifs de développement durable, les stratégies relatives à la paix et à la sécurité et la lutte contre l'extrémisme violent.
Ban Ki-moon, qui a ensuite, au cours de son intervention, dressé le bilan des 10 années passées à la tête du secrétariat de l'ONU, il s'est déclaré peiné que cette décennie ait été perdue pour établir la paix entre Israël et la Palestine. Le secrétaire général qui a aussi exprimé ses regrets au sujet de 2 situations qui, selon lui, ont terni la réputation de l'organisation et traumatisé les nombreuses populations aidées par l'ONU.
Les actes odieux d'exploitation et de violences sexuelles commis par certains soldats de la paix et d'autres membres du personnel des Nations Unies ont aggravé les souffrances des populations déjà prises dans un conflit armé et sapé les efforts les accomplis par tant d'autres agents de l'ONU dans le monde. Deuxièmement, Haïti a cumulé les épreuves. Peu après un tremblement de terre dévastateur, le pays a été frappé par une épidémie de choléra. J'ai beaucoup de regrets et de peine face aux terribles souffrances du peuple haïtien affecté par le choléra. Une nouvelle stratégie s'impose pour atténuer sa détresse et améliorer ses conditions de vie. Nous sommes fermement résolus à nous acquitter durablement de cette responsabilité morale.
Une 71e session de l'Assemblée générale décidément marquée par les départs, à l'instar de celui du président américain Barack Obama, qui du haut de la tribune s'est félicité des réalisations de la communauté internationale observées au cours des 8 années de son mandat. Il s'est fondé sur ses succès pour justifier son appel au multilatéralisme, à la démocratie et au libre-échange. Christina Silvero.
Récupération suite à la crise financière, règlement diplomatique de la crise iranienne, rétablissement des relations avec Cuba, appui à la résolution de la crise colombienne, accord sur le changement climatique, autant de réussites dont Barack Obama s'est félicité en entamant son dernier discours aux dirigeants du monde comme président des États-Unis. Des réussites accomplies selon lui en travaillant ensemble, toutefois il s'est inquiété des failles qui existent dans cet esprit de collaboration, illustré par la crise des réfugiés, les problèmes sécuritaires au Moyen-Orient, la censure des médias, l'utilisation des réseaux sociaux par les groupes terroristes, la violation par des nations puissantes de leurs obligations internationales. Barack Obama a plaidé pour le multilatéralisme, la démocratie et le libéralisme économique, assorti de quelques ajustements. Il a notamment prôné la réduction de l'écart entre les riches et les pauvres, le rejet de toute forme de fondamentalisme et le renforcement de la coopération internationale ancrée dans le droit et les responsabilités des nations.
Autre chef d'État à intervenir lors de la première matinée du débat général, le président de la République française, François Hollande. Il a exhorté tous les pays à mettre en œuvre le plus vite possible l'accord historique de Paris sur le changement climatique adopté le 12 décembre 2015 lors de la COP21 et à accélérer leur processus de ratification afin que tout soit conclu d'ici la fin de l'année.
La COP21 a été la conférence des décisions. La COP22 qui se tiendra à Marrakech doit être celle des solutions. Il s'agit de mettre en œuvre l'Alliance solaire internationale, de lutter contre la désertification, de protéger les océans, de fixer un prix du carbone. Mais l'appel que je veux lancer ici devant vous, à la suite de cet accord sur le climat, c'est un appel pour l'Afrique. L'Afrique est un continent plein de promesses, mais son développement peut être entravé par le dérèglement climatique, les migrations, les conflits, les guerres, le terrorisme. Ce continent plein d'avenir peut être aussi celui qui provoque une insécurité grandissante, dont seraient d'ailleurs victimes d'abord les Africains. Je propose donc, au nom de la France, un agenda 2020 pour l'Afrique. Ce plan doit permettre à tous les Africains d'accéder à l'électricité.
Une conférence de Marrakech sur le climat sur laquelle est bien sûr revenu le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Maroc, Salah Eddine Mezwar, lors d'une des nombreuses réunions et conférences de presse organisées en marge du débat annuel. Le chef de la diplomatie marocaine qui a souligné son intention de faire de la COP22 un événement essentiel dans le cadre de la mise en place de solutions concrètes pour le développement durable.
Nous voulons que le message qui sorte de Marrakech et à travers l'organisation par le Maroc de la COP22 soit celui de l'entrée de plein pied dans ce que devra être ou sera l'économie mondiale. Les pays en développement ont tout à gagner. Naturellement, il y a des déficits ou des manques, mais notre propre trajectoire et notre propre histoire nous a démontré que d'abord nous devons compter sur nous-mêmes et faire confiance à nos capacités, à nos compétences et ensuite intégrer cela dans les différents dispositifs et les différents mécanismes qui existent. Et je crois que sur la question du climat, de la finance climatique, sur la question des renforcements de capacités, sur la question de l'attractivité de l'investissement par rapport à un potentiel qui est réel et qui va se développer à l'avenir, je n'ai strictement aucun doute qu'à partir de Marrakech, il y aura une nouvelle dynamique en Afrique, mais au-delà de l'Afrique.
L'Afrique qui a été largement représentée lors du débat général de l'Assemblée, avec notamment l'allocution du président du Tchad et président de l'Union africaine, Idriss Déby, prononcée, et c'est rare pour le mentionner, avant même celle du président Obama. Idriss Déby qui a estimé que le monde et l'Afrique en particulier font face à de multiples menaces, à commencer par le terrorisme.
Dans ce monde d'incertitude, l'Afrique est le continent le plus vulnérable et le plus exposé, victime de la spoliation coloniale et aux prises avec les multiples problèmes de sous-développement, l'Afrique est aujourd'hui attaquée de plein fouet par le terrorisme, la menace du siècle. La Somalie, la Libye, le Mali, le bassin du lac Tchad, le Sahel dans son ensemble sont gravement déstabilisés et le péril cherche à se répandre sur l'ensemble du continent. L'Union africaine et ses États membres, malgré la modestie de leurs moyens, sont fortement mobilisés engagé dans la lutte contre ce fléau absolu. Cet élan de mobilisation devrait être renforcé et appuyé par l'ensemble de la communauté internationale sous toutes les formes.
Autre orateur attendu, le Canadien Justin Trudeau qui a indiqué que son pays a accueilli à bras ouverts 31 000 familles syriennes depuis l'an dernier. Le Premier ministre du Canada qui a aussi rappelé les dirigeants à leurs responsabilités premières en soulignant l'importance d'écouter et de répondre aux inquiétudes de leurs concitoyens.
Nous allons tout faire pour bâtir une classe moyenne forte au Canada. Nous allons investir dans l'éducation parce que cela apporte à la prochaine génération les outils nécessaires pour contribuer à l'économie mondiale et pour réussir. Nous allons investir dans les infrastructures parce que ça crée de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et ça contribue à faire de nos communautés de meilleurs endroits pour vivre, travailler et investir. Nous sommes déterminés à bâtir une économie qui fonctionne pour tout le monde, pas seulement pour les 1% les plus riches, de façon à ce que chaque personne bénéficie de la croissance économique. Et nous allons refuser de céder à la pression d'échanger nos valeurs profondes pour des votes faciles. Le monde s'attend à plus de notre part et nous nous attendons à plus de nous-mêmes.
On l'aura compris, les 6 jours marathon du débat général se sont accompagnés d'innombrables rencontres bilatérales, conférences de presse, segments ministériels et réunions thématiques de haut niveau. Plusieurs avaient trait aux crises africaines, comme celle du 23 septembre, sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Une réunion ouverte par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon. À l'issue de celle-ci, devant les journalistes, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, a fait le point.
Des avancées significatives ont été posées au cours de l'année qui est passée, mais nous reconnaissons aussi qu'il y a eu des lenteurs, qu'il y a eu des difficultés et que le gouvernement, pour sa part, il s'est évertué à tout mettre en œuvre pour pouvoir surmonter ces difficultés. Et nous travaillons à ramener les autres mouvements signataires, à remplir aussi leurs engagements pour que nous puissions ensemble aller vers un nouvel élan. Le représentant du président de la République l'a indiqué tout à l'heure à la session, que l'élan nouveau qui est demandé par la communauté internationale est aussi une préoccupation du gouvernement, du chef de l'État et de l'ensemble des Maliens. Donc nous souhaitons pouvoir tous tirer les leçons des difficultés actuelles sur le terrain, appeler tous les acteurs à pouvoir respecter leurs engagements et souhaiter que nous allions rapidement vers la mise en place des autorités intérimaires, vers la mise en place des mécanismes de sécurisation de l'accord, mais aussi le chef de l'État a annoncé sa volonté de tenir avant la fin de cette année une conférence d'entente nationale qui permettra aussi d'aller plus avant dans l'application de l'accord.
Autre crise et autre pays dans lequel est déployée une opération de maintien de la paix de l'ONU, la République centrafricaine. Un pays qui, après la réussite des élections ces derniers mois, et de l'aveu même de son président, à un moment critique et doit obtenir rapidement le soutien nécessaire de la communauté internationale, notamment le 17 novembre prochain, à l'occasion de la conférence organisée à Bruxelles sur l'avenir du pays. On écoute Faustin Archange Touadéra, président de la RCA, au micro de Christina Silvero.
La priorité d'abord, c'est la paix et la sécurité qui passe par le processus de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement des ex-combattants qui est la clé pour le processus. Actuellement, il y a des groupes armés qui détiennent encore les armes et ensuite il y a la réforme du secteur sécurité qui inclut la restauration de nos forces de défense et de sécurité. Et ensuite, il y a la justice et donc la réconciliation nationale.
Autre continent, autre pays, Haïti, qui dans les Caraïbes bénéficie aussi sur son territoire de la présence d'une mission de paix des Nations Unies, la MINUSTAH. Du haut de la tribune de l'Assemblée Générale, le président par intérim d'Haïti, Jocelerm Privert, a insisté sur les questions migratoires et l'exode de nombre de ses compatriotes. Le président par intérim a aussi fait valoir qu'Haïti se trouve encore une fois à un tournant de son histoire en soulignant l'importance des prochains rendez-vous électoraux pour le pays.
Haïti se trouve encore une fois à la croisée des chemins. De la réussite des prochaines élections dépendra l'avenir immédiat de mon pays, mais aussi le chemin qu'empruntera le pays dans les prochaines années. À ce tournant historique, le peuple et le gouvernement haïtien attachent la plus haute valeur à la solidarité de la communauté internationale, à la collaboration des Nations Unies et à celle des États membres pour le succès des prochaines élections, qui nous avons la ferme conviction marqueront une étape décisive dans le processus de jalon de consolidation de la démocratie et d'instauration de l'État de droit.
Aussi, le lundi 26 septembre, au terme du débat général, le président de l'Assemblée, le Fidjien Peter Thompson, dressant le bilan des 6 jours de déclaration des présidents, des chefs de gouvernement, des ministres et des représentants des 193 États membres de l'ONU, a noté leur détermination à réaliser les 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Il s'est dit aussi confiant de voir l'accord de Paris sur le climat ratifié avant la fin de l'année. Il a également pris note du souhait de nombreux États de réformer le Conseil de sécurité et s'est engagé à gérer la succession du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, dont le mandat expire donc à la fin de l'année, avec beaucoup de soin afin d'assurer une transition en douceur. Voilà, ainsi s'achève ce magazine Escale consacré donc cette semaine au débat annuel de l'Assemblée Générale, une édition conçue et présentée par Jérôme Longuet avec l'aide de Christina Silvero, d'Isabelle Dupuis et de Carlos Macias à la console. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur internet les magazines hebdomadaires mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Vous pouvez également aller sur les médias sociaux. Voilà donc, fin de ce programme. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.